Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine, encore une fois, pour évoquer des sujets historiques et géopolitiques. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflits en kiosque et sur notre site internet revueconflits.com, sur lequel vous pouvez notamment retrouver nos numéros actuellement disponibles. Notre numéro classique, dont le dossier est consacré au cyber et à la cybersécurité, et notre hors-série dont le thème porte sur la guerre, regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle, que vous pouvez donc retrouver sur notre boutique en ligne revueconflits.com. Et en commandant nos ouvrages sur notre boutique, vous les recevez sous quelques jours en format papier et directement en format numérique. Boutique sur laquelle vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant, c'est la meilleure manière de soutenir Conflits et de nous permettre de continuer à vous proposer ces contenus en libre accès et notamment ces émissions dont vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. Je vous en remercie puisque au mois de septembre, nous avons dépassé le précédent meilleur score du mois d'août et vous êtes chaque mois plus fidèles encore et donc je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors notre hors-série est consacrée à la guerre, regard sur la guerre et nous allons rester un petit peu dans le domaine de la guerre au cours de cette émission pour évoquer la figure de Sébastien le Prestre de Vauban. Vauban, c'est un nom qui évoque beaucoup de choses, un nom qui fait rêver aussi parce qu'il a laissé sa trace dans les paysages. Et comme vous allez le voir au cours de cette émission avec mon invité Jean-Loup Fontana, Vauban n'est pas uniquement un architecte, ce n'est pas uniquement l'homme de guerre que l'on connaît, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Jean-Loup Fontana, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous êtes conservateur du patrimoine. Vous avez travaillé sur de nombreux aspects de la conservation du patrimoine français et vous venez de publier aux éditions Glénat un très bel ouvrage avec Jean-Benoît Héron qui est consacré à Vauban. Vauban, homme de l'art. Alors je dis très bel ouvrage parce que ce n'est pas un ouvrage classique sur Vauban beaucoup ont paru, mais c'est un ouvrage illustré. Glénat est connu notamment pour ses bandes dessinées. Nous en faisons régulièrement des recensions dans Conflits. Jean-Benoît Héron a participé à la publication de plusieurs ouvrages, notamment une série consacrée aux bateaux. Et on retrouve ici sa capacité à dessiner les paysages. C'est un ouvrage superbe. Alors, on ne le voit pas à la radio, mais en vous rendant sur le site de Conflits, nous publions plusieurs planches. Vous pourrez ainsi vous rendre compte du très beau travail de dessin et d'illustration de cet ouvrage. Et c'est ce qui en fait la particularité, parce que c'est vrai que parler de Vauban sans voir ses plans, sans voir les bâtiments qu'il a contribué à édifier, c'est un petit peu dommage. Donc, en vous rendant sur notre site, vous aurez quelques exemples de planches de ce très bel ouvrage. Et puis, si vous consultez l'ouvrage, si vous l'acquérez, vous verrez, bien au-delà de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, l'ensemble des planches et des dessins qui sont réalisés. Alors, Jean-Benoît Héron, c'est pour les dessins. Et puis, vous, Jean-Loup Fontana, vous avez largement contribué au texte. En tant que conservateur du patrimoine, et je commencerai par là pour ma première question, qu'est-ce que Vauban a apporté au patrimoine? Est-ce que c'est, j'allais dire uniquement, mais le terme est impropre, mais est-ce que c'est seulement un homme qui a construit des citadelles ou est-ce qu'il a aussi apporté quelque chose à l'architecture et au patrimoine français de manière générale?
Vauban, c'est un personnage extraordinairement complexe, vous l'avez dit tout à l'heure, et l'intérêt pour le conservateur du patrimoine, je précise pas le patrimoine en général, mais du département des Alpes-Maritimes, puisque c'était ma fonction, conservateur départemental, Vauban a profondément marqué le paysage, donc effectivement il a profondément influencé, je dirais, l'image que nous pouvons avoir de notre patrimoine. Vauban, c'est, lorsqu'on voit une citadelle bastionnée, on dit c'est Vauban qui a fait ça, il n'y a pas de souci. D'abord, c'est pas toujours tout à fait exact. Il y a des exemples assez nombreux, relativement, notamment dans les Alpes-Maritimes, d'ailleurs, avec le fort carré d'Antibes, par exemple, qui sont des choses bien antérieures à Vauban. Ça avait été construit un siècle avant la naissance de Vauban. Donc Vauban a apporté quelque chose dans le domaine militaire, dans le domaine stratégique, dans le domaine de la polyorcétique, c'est-à-dire l'art de fortifier, mais aussi d'assiéger et de prendre les villes. Et de ce point de vue, il a marqué d'une manière absolument indélébile notre environnement culturel, paysager et bien sûr architectural. On lui attribue systématiquement et à tort parfois toute la fortification bastionnée, et puis on oublie de regarder que à côté de ça il a pu faire un certain nombre d'autres choses qui sont parfois du domaine de la fortification mais pas obligatoirement. Je pense au pont couvert de Strasbourg par exemple, qui participe à la défense de la ville, en ce sens qu'il s'agit essentiellement d'un barrage qui permettait de retenir les eaux de l'île et éventuellement donc d'inonder complètement les terrains périphériques où aurait pu s'installer une armée ennemie. Mais il y a des choses assez surprenantes, comme l'aqueduc jamais achevé d'ailleurs de Maintenon, qui traversait le parc de Madame de Maintenon et qui était censé pouvoir amener les eaux de la Marne, je crois, jusqu'au parc de Versailles. Donc ce sont quand même des choses assez étonnantes. Et puis il n'y a pas, même dans le domaine de la fortification, il n'y a pas que de la fortification bastionnée. J'étais il y a quelque temps à Saint-Vincent-les-Forts, c'est un village qui domine le grand lac, l'immense barrage de Serponçon, dans la charnière entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, et à Saint-Vincent-les-Forts, il avait construit trois tours, qui étaient trois postes de guet, des petits postes de défense, des fortins, mais qui étaient vraiment des tours que l'on pourrait croire complètement médiévales finalement. Il n'en reste qu'une. Hein. Et puis il y a des choses encore plus surprenantes. Vauban, et il en était suffisamment fier pour le revendiquer, écrit au consul de la ville de Briançon pour leur dire: je vous rappelle que c'est moi et moi seul qui ai fait les plans, les projets et les dessins de votre magnifique église, église qui est devenue par la suite collégiale, qui porte le titre de Saint-Nicolas, est effectivement une œuvre classique tout à fait extraordinaire, qui est établie sur la plateforme de l'un des bastions donc de la ville fortifiée, de la cité Vauban de Briançon, et qui est un magnifique ouvrage, bien dans la tradition baroque, réinterprété avec le goût français, dont on aurait pu avoir un peu plus loin, un peu plus en aval sur la Durance, à Mont-Dauphin, on aurait pu avoir un second exemple, parce que ce qui a été construit, c'est-à-dire essentiellement le cœur qui est conservé de la magnifique église Saint-Louis de Mont-Dauphin, c'est un chef-d'œuvre. Pour Briançon, on sait que Vauban en est l'auteur, pour Mont-Dauphin, je me permets de proposer très modestement d'envisager que cela lui soit attribué. Et puis il y a des choses complètement fantaisistes, par exemple à Grasse. La cathédrale, l'ancienne cathédrale de Grasse a été reprise en sous-œuvre au début du XVIIIe siècle pour réaliser ce que l'on appelle abusivement la crypte, qui est en fait une église souterraine. Mais du coup, pour accéder à la porte, au portail d'entrée principal de cette cathédrale médiévale, il a fallu construire un immense escalier que l'on n'a pas hésité à attribuer à Vauban, tout simplement parce que Vauban était le beau-père d'un jeune homme qui s'appelait Monsieur de Mesgrigny, et Monsieur de Mesgrigny était le neveu de l'évêque de Grasse qui avait fait ses travaux. Donc si vous voulez, on a établi une sorte de réseau, de lien, etc., qui n'a aucune consistance historique, mais qui fait partie un peu de ce légendaire, selon la formule « on ne prête qu'aux riches ». Dès qu'on voit quelque chose d'un peu bien travaillé, on n'hésite pas à l'attribuer à Vauban. Donc il y a la dimension militaire, stratégique, hein, la fortification, les villes bastionnées, les citadelles, etc. Il y en a en France, il y en a ailleurs, hein, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, etc. Au total, il y en a quand même 170 conservés en Europe. Plus, il faudrait peut-être inclure là-dedans tout ce qui a été fait sur des continents beaucoup plus lointains, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou même en Extrême-Orient. La Chine, la Turquie, etc., se sont largement inspirés pour leur fortification des propositions et des réalisations de Vauban. Donc on peut dire qu'il y a une école qui est considérable, et de ce point de vue, elle ne pouvait que retenir l'attention du patrimoine mondial, c'est-à-dire de cette liste tenue à jour, élaborée et tenue à jour au sein de l'UNESCO. Et effectivement, il y a quelques années, 12 sites français, que l'on appelle les sites majeurs, du coup, ont été inscrits, alors ils sont purement français, ceux-là ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est à la suite de ça que l'éditeur Glénat a demandé à Jean-Benoît Héron de réaliser des dessins d'après ces 12 sites, avec parfois des vues d'ensemble, parfois des vues de détail, etc. Et ils m'ont demandé d'accompagner ce texte. C'est donc pas du tout une bande dessinée, c'est un texte généraliste, si vous voulez, qui essaye d'établir le lien entre ces 12 sites qui sont répartis tout autour du territoire français.
Quelles sont les caractéristiques d'un ouvrage à la Vauban? On a en tête cette forme en étoile, avec ses différentes murailles qui permettent de protéger les assauts, mais est-ce qu'on a un style particulier, ou est-ce que Vauban s'adapte aussi aux besoins, au paysage également? C'est quand même pas la même chose de faire une forteresse à Besançon et d'en faire une sur l'île de Saint-Martin-de-Ré. Comment est-ce que Vauban associe la manière de s'adapter à la géographie et sa conception de ce qu'est une place forte et son style particulier?
En fait, Vauban est, je dirais, conduit par les impératifs, c'est vrai, à la fois du terrain, donc du relief, etc., du climat d'ailleurs, d'une certaine manière aussi. Quand on est à Briançon ou à Mont-Dauphin, il fait évidemment beaucoup plus froid que quand on est dans les plaines des rivages atlantiques. Il y a ça, et puis il y a surtout, et quand même avant toute chose, une fortification, c'est un objet de guerre, il y a les contraintes et les impératifs de l'attaque. Or, à l'époque de Vauban, ce qui explique d'ailleurs la systématisation sur une période de temps relativement courte de ce genre de fortification, c'est la période de la guerre de siège. On a auparavant un pays réuni une armée puissante pour aller envahir le territoire de son voisin. On décide d'établir une barrière. Cette barrière, c'est une série de fortifications qui peuvent être étagées d'ailleurs en plusieurs lignes successives. Et puis ces fortifications vont servir essentiellement à ralentir la progression de l'armée ennemie, de manière à pouvoir réunir sa propre armée pour aller contrer ou chasser, renvoyer chez elle la précédente. Donc on a des places fortifiées qui sont faites pour résister au siège et au bombardement. Le bombardement, auparavant, lorsqu'on tirait des coups de canon, des boulets de canon sur des murailles verticales, on finissait par ouvrir des brèches, c'est-à-dire par les faire s'effondrer. Là, avec les fortifications bastionnées qui sont enterrées, donc qui ne sont pas directement, qui n'opposent pas d'obstacle à la course des boulets de canon, donc on a quelque chose qui pratiquement ne se voit pas. Et le seul moyen, puisque le canon, l'artillerie de loin n'est plus utilisable, le seul moyen de pouvoir rentrer dans la citadelle, c'est d'arriver au pied de ces murailles, de poser des mines et de provoquer un effondrement. À partir de ce moment-là, que Vauban va tenir compte des possibilités que l'on a d'amener du canon devant les places, des possibilités éventuelles que l'on peut avoir de tirer des coups de canon depuis des hauteurs environnantes. C'est le cas de Besançon que vous citiez par exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et Vauban va donc sans arrêt, proposer non pas un modèle qui serait répétitif à l'infini d'une fortification dite en étoile ou autre, mais un modèle parfaitement adapté. Il a des mots très simples d'ailleurs et très honnêtes, puis en même temps d'une justesse extraordinaire. Il dit l'art de fortifier, c'est d'abord l'art d'avoir du bon sens, c'est-à-dire d'observer le terrain, d'observer quelles sont les possibilités d'attaque, d'invasion, d'incursion ennemie sur ce terrain et dans quelle direction, et puis de bloquer ce passage, c'est tout. Et à partir de là, on a effectivement ces modèles qui peuvent être bastionnés, mais qui ne sont pas obligatoirement. Par exemple, bon, on connaît tous évidemment Nebrisac ou Longwy ou des choses comme ça, mais il y a par exemple la Camarée, sur la presqu'île de Crozon au fin fond du Finistère, il y a une tour avec une terrasse d'artillerie, c'est une tour qui n'a rigoureusement rien de bastionné. On pourrait en citer comme ça d'autres exemples, les petites tours d'observation qui sont peut-être aussi des fortins de Saint-Vincent-les-Forts au-dessus du barrage et du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Ce sont des tours qui pourraient être parfaitement médiévales, c'est des petites tours rondes, il n'en reste qu'une sur les trois, mais ce sont des petites tours rondes avec un chapeau pointu et ça ressemblerait à un moulin presque. Donc on a une capacité de Vauban à développer des dispositifs qui seront parfaitement efficaces parce que auparavant il a très bien identifié quelle était la menace potentielle. Quand on est dans une plaine des Flandres, la menace d'une armée est tout à fait différente de ce qu'elle pourrait être à Briançon par exemple, où une armée nombreuse ne peut pas camper, ne peut pas se déplacer facilement, et surtout il y a une très courte période de temps pour l'intervention militaire de cette armée. Donc on a à chaque fois une menace et des contraintes différentes, et à chaque fois Vauban a le talent, le génie, pour adapter son projet à ses considérations.
Il y a une chose qui est frappante aussi, notamment quand on regarde les très beaux dessins qui ornent l'ouvrage, c'est le fait que ces ouvrages de Vauban sont beaux, il y a des belles proportions, il y a des ornementations. Alors, on va dire que c'est quand même surprenant pour des bâtiments qui servent à faire la guerre, de voir des fleurs de lys, de voir des sculptures. Alors, ça reste évidemment assez austère, mais malgré tout, des ornements, on se dit que pour un bâtiment qui va subir le feu du canon, tout cela va être abîmé. Et pourtant, notamment, les portes sont très belles aussi. Vous avez tout un chapitre consacré aux portes, très bien ajourées. C'est important aussi de décorer, d'ornementer comme ça les bâtiments.
Vauban est avant tout un homme de son siècle. Son siècle, c'est le siècle, le grand siècle, le siècle du roi soleil, le siècle de Louis XIV. Louis XIV ne tient pas spécialement, et ses ministres, ses courtisans, son entourage, etc., ne tiennent pas à faire quelque chose qui soit strictement et purement fonctionnel. Il faut toujours que ce soit démonstratif, je dirais, de la souveraineté, de l'absolutisme du monarque. Donc il y a une part qui est réservée à un décor, mais qui n'est pas un décor ornemental, qui est un décor emblématique. Les fleurs de lys, c'est l'emblème de la monarchie française. La métaphore du soleil, je pense en particulier sur la superbe porte de Fort Médoc, il y a dans le tympan triangulaire au fronton de cette porte royale, il y a un magnifique soleil rayonnant, resplendissant. Il y en a un tout à fait comparable à Saint-Martin-de-Ré, sur la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. C'est vraiment la métaphore du roi soleil. Le roi soleil, c'est celui qui illumine le monde, qui illumine l'univers. Donc Louis XIV s'identifie à un soleil, et du coup on frappe les monuments de cette espèce de sceau du soleil qui est tout à fait emblématique. Et puis il y a aussi le fait que Vauban est un homme de son époque. Nous sommes dans les siècles baroques, hein, 17e et début du 18e siècle, puisqu'il meurt en 1707. Donc Vauban utilise les recettes, les principes, plutôt les préceptes de la grande architecture baroque, ou avec son faciès particulier qu'on appelle le classicisme français. Une chose qui est impressionnante, c'est de rentrer dans la citadelle d'Arras. La citadelle d'Arras, depuis la ville, on y accède par une porte royale qui est magnifique, évidemment, et on arrive sur l'immense esplanade qui était la place d'armes de cette citadelle, et dont tout le fond est fermé par le bâtiment de l'arsenal. Et on a, sur 85 mètres de développement, on a un modèle véritable de l'architecture classique française qui associe la brique, la pierre blanche, le calcaire, la craie et l'ardoise. Pratiquement, c'est assez curieux. D'ailleurs, on a bleu, blanc, rouge bien avant l'invention de cet emblème révolutionnaire et républicain. Mais on a vraiment cette architecture qui est extraordinairement développée, qui est tout en longueur, qui est scandé, il y a un rythme architectural extraordinaire qui est donné par la succession des travées, par des petits faux pavillons légèrement en décrochement, en saillie. C'est absolument somptueux à voir, et puis il y a quand même de temps à autre effectivement un élément d'ornement, et l'entrée principale, le portail de cet arsenal d'Arras, c'est une magnifique élévation de colonnes d'ordre français d'ailleurs, avec des boulets de pierre assez symboliques qui surmontent les colonnes. C'est somptueux.
Alors pour l'avoir sous les yeux, je confirme qu'effectivement la façade est très belle et très bien proportionnée. Je reviens juste sur ce que vous avez dit au début. Vous avez dit que Vauban était influencé par le baroque. J'ai quelques souvenirs de mes cours d'histoire où on disait que le baroque n'était pas venu jusqu'en France. Ce n'est pas vrai.
C'est une lecture assez étrange d'ailleurs, qui a été donnée très tardivement. Hein. C'est au moment où, en fait, par exemple, on a utilisé ce mot baroque, faut pas se leurrer, baroque, dans l'esprit de Saint-Simon, qui est le premier à l'utiliser dans ses mémoires, ça veut dire bizarre, tordu, compliqué, inutilement compliqué d'ailleurs. Et on a utilisé ce mot pour qualifier une architecture et surtout un art décoratif que l'on trouvait inutilement surchargé. Bon, et on a dit non, il faut, en France, nous sommes le pays de la raison, de la rigueur, de la maîtrise de soi et du monde, etc. Donc on va faire une architecture beaucoup plus sage. Voilà. Et du coup, on a décrété que le baroque, donc cette espèce de chose un peu pernicieuse finalement, n'aurait pas pénétré en France. C'est évidemment totalement faux, il suffit de se promener partout en France pour s'en rendre compte. Et puis il suffit de se rendre compte aussi, pour s'en rendre compte mieux, de constater que l'esprit baroque, c'est-à-dire l'esprit architectural et ornemental, en fait, quasiment il a couvert la planète. Et partout en Europe, de l'Espagne à la Russie et de la Scandinavie à la Sicile, on a des représentations baroques. Ça n'est pas limité à ce que l'on appelait autrefois le croissant baroque, qui aurait été quelque chose qui, en gros, faisait une partie de la péninsule italienne, le sud de l'Allemagne, et qui irait un petit peu vers l'Europe centrale, en évitant la France, l'Espagne, l'Amérique du Sud, l'Indonésie, etc., etc. Donc c'est une idée qui est totalement dépassée, et des réalisations comme Versailles, par exemple, c'est un chef-d'œuvre baroque. Voilà. Désolé de contredire.
Ça va surprendre nos éditeurs de savoir que Versailles est un chef-d'œuvre baroque et que le baroque n'est pas réservé qu'à Vienne et à Prague.
Et à Rome. Non, il y a bien du baroque en France, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Pour les Parisiens, je leur recommande par exemple d'aller visiter ne serait-ce que la petite église de Saint-Louis en Lille. Ils ont quelque chose qu'on pourrait démonter pierre à pierre et reconstruire à Turin sans aucun état d'âme. Or, Turin, c'est quand même des principales capitales baroques d'Europe.
Au début de cette émission, vous avez évoqué la forteresse d'Antibes en disant qu'elle n'était pas l'œuvre de Vauban. Pourtant, elle a une forme à la Vauban. Est-ce que ça veut dire aussi que Vauban s'est inspiré de ce qui existait précédemment?
Alors, l'architecture bastionnée, elle a quand même l'architecture fortifiée, la fortification bastionnée, a une origine historique qui se situe, bon, pour simplifier, on va dire au XVIe siècle, au moment des guerres d'Italie. C'est-à-dire que dans une période où il y a des guerres incessantes qui agitent complètement l'Europe, et ça ne concerne pas spécifiquement l'Italie, mais ça concerne vraiment la structuration des États européens. C'est une période, c'est quasiment un siècle, enfin, au moins 2 tiers de siècle, d'affrontements récurrents, sinon permanents, entre le roi de France et l'empereur. Et donc ça couvre effectivement toute l'Europe occidentale. Or, parmi ces guerres, au début, on fait la guerre à l'ancienne, en utilisant avec le maximum de puissance, la nouveauté qu'est l'artillerie et la poudre noire. Et donc, on bombarde des murailles, et dans une guerre, pendant une de ces innombrables guerres qui opposent les deux grandes villes concurrentes de Toscane, que sont Florence et Pise, les Florentins réussissent par bombardement à faire s'effondrer les remparts de Pise. Les Pisans qui sont menacés d'être envahis à l'intérieur de leur ville, s'installent sur ce tas de décombres, ils mettent peut-être un platelage, quelque chose comme ça, et là on se rend compte que du coup les canons des Florentins ne peuvent servir à rien, et que du coup l'infanterie florentine ne peut pas accéder facilement, parce qu'il faut escalader un tas de décombres, ce qui est une pente, un talus, hein, ce qu'on appellera un glacis par la suite, une fois qu'on l'aura bien aménagé, et que du haut de ce glacis, il y a les Pisans qui leur tirent dessus. Alors c'est quand même, ça rend les choses un peu compliquées. C'est à partir de là qu'on va se rendre compte que la fortification verticale très très altière finalement des tours et des grands remparts médiévaux ne sert plus à rien face à l'artillerie. Et puis, à peu près à la même époque, quelques décennies près, il y a un certain Ali Pacha qui assiège la ville de Otrante. Otrante, ça se trouve en face du golfe de Lépante, sur l'Adriatique. Et à Otrante, il se rend compte que les fortifications, les tours rondes, ne peuvent pas très bien se défendre, sont très fragiles par rapport à son artillerie. Et il imagine, sur le plan, à l'emplacement de ces tours qui sont rondes, enfin au moins circulaires au départ, il dit qu'il n'y a qu'à faire des choses pointues, comme ça les boulets ils vont échapper en quelque sorte là-dessus, ils pourront pas, leur impact ne sera pas perpendiculaire à la construction et à la maçonnerie, donc ça va glisser littéralement sur ces choses angulaires. Et puis surtout, une tour, elle est ronde, donc d'un point quelconque de la tour, on ne peut pas voir les autres, on ne peut voir que vers l'extérieur, tandis que depuis un bastion triangulaire, on voit tout l'alignement des flancs du bastion, et puis on voit le bastion d'en face, et on peut participer à sa défense. Donc il y a un système double, c'est la fortification enterrée, et avec ces bastions triangulaires. Or ça apparaît au XVIe siècle. Le fort carré d'Antibes a été construit avec une petite ligne de fortification qui comportait aussi Saint-Paul-de-Vence par exemple, et puis qui allait très loin, hein, jusqu'à Sisteron, sur la Durance. On a une ligne de fortification qui voulait empêcher toute invasion à travers les États de Savoie du Royaume de France par les armées impériales. Donc on est aux alentours de 1580, 1550, 1580 à peu près. À Nice, le fort de Montalban, qui domine la ville de Nice sur le Mont Boron, ce fort a été construit en 1560. Et c'est un petit bijou, ça pourrait être un chef-d'œuvre de Vauban. C'est un carré avec un bastion triangulaire à chacun de ses angles. C'est tout petit, mais c'est remarquable. Et on a des choses dont par l'intermédiaire de théoriciens dont le célèbre Pagan ou bien Jean Érard de Bar-le-Duc, qui ont publié des mémoires sur l'art de fortifier, donc dans les premières années du XVIIe siècle, on a tous les modèles dont Vauban va s'inspirer au départ, c'est-à-dire qu'il va en prendre les recettes de base, et puis surtout, et c'est là qu'est le génie de Vauban, il va parfaitement savoir les adapter à toutes les formes de terrain et à toutes les évolutions de la stratégie.
Il y a un aspect qui revient régulièrement dans votre ouvrage, c'est la question de l'eau, parce que les villes doivent être abreuvées, donc il faut des puits pour abreuver de manière saine les personnes qui sont dans la ville, notamment les soldats. Et on voit aussi que Vauban s'appuie très souvent sur soit les cours d'eau, soit les mers ou du moins les fleuves. Donc je pense notamment à ce qu'il a fait dans l'estuaire de la Gironde.
Exemple absolument fantastique. Alors c'est il y a plusieurs choses. D'abord, on disait tout à l'heure que rappeler que c'est l'époque de la guerre, enfin c'est le grand siècle de la guerre, hein, le XVIIe siècle, c'est l'époque de la guerre de siège. Donc une place forte, ville fortifiée et citadelle qui est très généralement à l'écart de la ville, à la fois pour la contrôler et pour être un peu l'ultime bastion de sa défense. Donc ce sont des lieux qui seront pris uniquement par voie de siège. Or, un siège à l'époque, compte tenu des impératifs climatiques, des difficultés de ravitaillement, de la solde, des armées aussi, hein, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, un siège, on ne peut pas se permettre de le faire durer éternellement. On ne se contente pas de s'asseoir devant les portes d'une place pour interdire le ravitaillement de la place en attendant que les gens meurent de faim et de soif et ne se rendent. C'est pas comme ça que marche un siège. Un siège, on estime à l'époque de Vauban que ça va durer entre 6 et 8 semaines au grand maximum. Et donc il faut simplement pouvoir proposer à une garnison et à la population qui est contenue, elle aussi, à l'intérieur de cette fortification. Je pense aux populations, je pense aussi à leurs animaux, hein, les chevaux, mais aussi le bétail, etc. Donc il faut approvisionner en eau. Si on s'approvisionne en eau de manière extérieure, l'assiégeant, par le moyen d'un détournement, d'une canalisation, il peut très bien détourner ou interrompre l'approvisionnement en eau, ou bien il peut l'empoisonner, ou quelque chose comme ça. Donc il faut avoir une fourniture en eau à l'intérieur de la place. Et comme la fortification, surtout dans les terrains de montagne, et Dieu sait s'il y a des montagnes en France, elle est généralement en hauteur, il est évident que sur les sommets, il n'y a pas beaucoup de rivières, il n'y a pas beaucoup de sources. Donc on va creuser des puits. Et certains de ces puits sont tout à fait spectaculaires. Je pense à celui de Besançon qui atteint ou qui atteignait 117 mètres, si mes souvenirs sont exacts, de profondeur. Mais là encore, on a des choses bien plus anciennes. La citadelle de Nice, ce qu'on appelle le château, parce qu'il n'y a rigoureusement plus aucune fortification, plus un fragment de muraille là-dedans. C'est un parc, un grand jardin public. Il y avait là un puits dans lequel se trouve l'actuel ascenseur qui permet de monter au sommet de la colline du château. Ce puits faisait 75 mètres de profondeur et il avait été creusé au XVIe siècle. On a des exemples, le problème c'est qu'il y en a partout. Fort Barreau dans l'Isère par exemple avait un puits tout à fait extraordinaire. Mont-Louis dans les Pyrénées a un puits tout à fait étonnant aussi, parce que du coup il fallait remonter de ce puits sur des longueurs considérables, il fallait remonter d'énormes cuves, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir plusieurs centaines de kilos, y compris en ajoutant même donc le poids de la cuve en bronze, le poids de l'eau contenue, c'était plusieurs dizaines voire centaines de litres, le poids de la corde très longue et trempée. Donc tout ça, ça nécessitait des installations qui sont en fait des systèmes de cabestan, on appelle ça des roues d'écureuil, on mettait un soldat là-dedans, alors on dit que c'était une punition, c'est même pas forcément évident, on mettait un soldat, puis en marchant dans cette roue, à l'intérieur, il a enroulé la corde sur un cabestan et après il n'y avait plus qu'à se servir. Donc on a effectivement des ouvrages considérables. Dans certains autres endroits, je pense à Longwy par exemple, à Longwy il y a un puits tout à fait extraordinaire, mais à Neubrisach il y a un dispositif de puits, et puis il y a des dispositifs aussi de citernes. On récupérait là les eaux pluviales hein, qui étaient canalisées par des gouttières, etc., et qui étaient stockées dans des citernes où l'on venait puiser par des abreuvoirs extérieurs.
Hein. C'est effectivement, ça montre tout le travail de Vauban, mais qui n'est pas tout seul. Il y a aussi une équipe avec lui dans la composition des plans et puis dans les ouvriers. Enfin, c'est aussi tout un siècle qui sait bâtir, qui sait construire et qui maîtrise parfaitement tous ces aspects architecturaux.
Voilà, c'est-à-dire que le travail de Vauban est un travail de concepteur. Il connaît les ressources, les possibilités offertes par l'artillerie, offertes par tous les armements dont on dispose à l'époque. Donc il conçoit le dispositif fortifié qui permettra d'y résister pendant donc la durée d'un siège. Mais après, une fois que le dessin a été établi, alors le dessin, une des chances qu'on a, c'est que Vauban a des équipes de dessinateurs qui sont absolument remarquables, parce qu'il ne faut pas oublier que les dessins, les plans, ils sont envoyés directement à Louis XIV et au moins à ses ministres, parmi lesquels le célèbre Louvois ou après Louvois, Le Pelletier ou Colbert. Donc on a des gens qui reçoivent des dessins, et quand on envoie un dessin à Louis XIV, on fait pas, c'est pas un gribouillis sur un coin de nappe en papier dans un restaurant, hein, c'est une planche magnifique, soigneusement dessinée, parfaitement aquarellée avec des nuances de couleurs qui sont tout à fait extraordinaires. Il y a un lettrage, une écriture qui sont remarquables. On a vraiment des œuvres d'art, hein, véritablement, avec ces choses-là. Une fois que ce dessin a été fait, ces dessins, parce que ce sont des dossiers assez complets, hein, ont été réalisés, transmis et validés, c'est-à-dire approuvés par le roi et ses ministres, parce qu'après, il faut payer la réalisation. Après, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Et là, le travail, c'est un travail de terrassier. C'est d'abord du terrassement. Ça consiste à remuer des tonnes et des tonnes et des mètres cubes par milliers de terre, de cailloux, de rochers, etc., pour creuser des fossés. La terre qu'on extrait des fossés sert à former des talus, à former les escarpes, les contre-escarpes, etc. Après, il faut chemiser tout ça avec de la brique, avec de la pierre pour renforcer. Il y a les fausses briques, qui sont ni plus ni moins que des talus, donc des monticules de terre qui servent à protéger le bas de ces fortifications, le bas des remparts. On a des exemples magnifiques, évidemment, à Saint-Martin-Ré en particulier. Et puis, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, il faut encore pouvoir y amener, en cas de besoin, l'eau, par exemple, pour inonder les fossés. Donc c'est le cas, par exemple, sur l'estuaire de la Gironde avec Fort Médoc. Fort Médoc est une petite fortification qui a été construite à son époque de Vauban, donc au milieu des marécages, en bordure de Gironde, dans un endroit totalement inondé et inondable. Et on a drainé tout ça. Donc il y a, en plus de la construction fortifiée, il y a le travail de creusement des fossés, mais qui sont aussi des canaux, littéralement des canaux de drainage. Donc on a un travail gigantesque, absolument spectaculaire par son ampleur. Mais si on y réfléchit, c'est un travail de pelle, de pique et de brouette. Voilà, c'est un peu à la chinoise, vous savez, ces images qu'on voyait autrefois des Chinois qui construisaient des barrages avec simplement un couffin sur le dos ou sur l'épaule. Et bien, en s'y mettant à plusieurs milliers pendant le temps nécessaire, on arrive au résultat.
Et un résultat qui est magnifique et surtout qui dure dans le temps, puisque ce sont des bâtiments qui ont aujourd'hui 4 siècles et qui sont toujours présents, or toujours utilisés non pas à des fins militaires, mais en tout cas au moins à des fins civiles, puisque la ville de Besançon, par exemple,
Alors, la ville de Besançon, absolument, oui, c'est exemplaire. En plus, la citadelle de Besançon, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, à tout point de vue, hein, le site, mais aussi la réalisation. C'est un dispositif de plusieurs fronts bastionnés. Il y en a deux côté ville et un côté campagne. Et bah, c'est pas gigantesque, hein, tout ça, mais en même temps, c'est tellement remarquable comme conception et comme épure, l'épure du plan, mais aussi l'épure visible sur le terrain, c'est tout à fait spectaculaire et impressionnant. Et il y a dans ce travail-là, il y a quelque chose de, en plus, j'allais dire presque de dérisoire, parce qu'il faut bien voir que la fortification bastionnée, elle devient tellement efficace que du coup, on ne s'y attaque plus. Donc du coup, la fortification bastionnée, pour l'essentiel des cas, n'a jamais connu d'épisode guerrier. Littéralement, n'a jamais servi à rien. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une dépense, un gaspillage. Ce qui veut dire qu'on a créé un outil dissuasif extraordinaire. Mais en même temps, on a été obligé de faire évoluer les principes même de la guerre. C'est-à-dire que très rapidement, on est arrivé à des guerres de mouvement, à des guerres de déplacement de forces, d'armées, d'artillerie, etc., avec une spécialisation des différents corps. Puisque le siège, même si on avait réussi au bout de 6 semaines à prendre une ville, par exemple, on faisait quelques kilomètres et paf, on tombait sur la ville suivante qu'il fallait assiéger à son tour. Or, au XVIIe, même au XVIIIe siècle, la guerre, on la fait pas 12 mois par an. On l'a fait 6 à 8 mois, en tout cas c'est chaque année. Donc quand, au bout de 3 sièges, bon, on a perdu toute sa campagne, mais on n'a pas vraiment progressé. C'est ce que Vauban appelait le fameux précaré. Le précaré, il ne faut pas oublier que Vauban était morvandieux d'origine, et donc il avait utilisé cette formule qui est une formule de paysans et d'éleveurs du Morvan. Le précaré, c'est l'espace, le champ, le pâturage, etc., que l'on peut facilement clôturer. Et Vauban disait, le roi ferait bien de se faire faire de son royaume un précaré, c'est-à-dire quelque chose qui soit clôturé. Et la clôture, c'est pas des fils de fer ou des cordes, c'est des citadelles, des places fortifiées sur deux lignes. Arras, par exemple, est le pivot de la deuxième ligne fortifiée du précaré. La première, c'est Lille, avec cette somptueuse citadelle de Lille, qui est toujours domaine visitable et qui n'est visitable que dans certaines circonstances, je crois pour les journées du patrimoine ou des choses comme ça. Vauban lui-même l'a considéré comme la reine des citadelles. Il en avait d'ailleurs été nommé gouverneur. Et c'est sa première grande, importante réalisation dans le domaine de la fortification bastionnée.
Merci Jean-Loup Fontana. C'est l'intérêt d'ailleurs de Vauban, c'est que chaque Français est proche d'une citadelle de Vauban et peut aller voir de lui-même à quoi elle ressemble et peut ainsi les visiter, puisque effectivement il y en a sur l'ensemble du territoire, au moins sur les parties extérieures. À l'intérieur, ce n'était pas nécessaire.
C'était moins menacé.
Merci. Je rappelle donc votre ouvrage Vauban, homme de l'art, que vous avez co-réalisé avec Jean-Benoît Héron, qui a réalisé les dessins. Sur le site internet de Conflit, revue.conflit.com, vous aurez quelques exemples de planches qui vous permettra comme ça de vous rendre compte de cette très belle qualité de l'ouvrage. Et il est vrai que parler de Vauban avec les dessins des forteresses sous les yeux et des descriptifs des bâtiments, ça apporte quelque chose de beaucoup plus important. Merci beaucoup de nous avoir présenté l'homme Vauban, et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.